VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 20 octobre 2016, en direct de Washington, Idrissa Siroudia et Timothée Donangmaï. Titre 1 de l'actualité, Hillary Clinton et Donald Trump ont eu hier soir à Las Vegas dans le Nevada leur troisième et dernier débat avant la présidentielle du 8 novembre. Monsieur Trump a surpris plus d'un en refusant publiquement de s'engager à accepter les résultats de l'élection présidentielle qu'il dit déjà truquée. Timothée, vous avez suivi ce débat.
Et oui, Idrissa, le troisième débat entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump aura été marqué par le refus de M. Trump de s'engager à reconnaître les résultats de la présidentielle de novembre, quels qu'ils soient.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time.
Je verrai à ce moment-là, je ne vois rien pour le moment, et je verrai à ce moment-là, et ce que j'ai vu est tellement mauvais. Tout d'abord, les médias sont si malhonnêtes et si corrompus, a déclaré Donald Trump, suscitant une vive réaction de Mme Hillary Clinton, qu'il a alors accusé de remettre en cause le système démocratique américain. Le débat a démarré par une question sur le rôle de la Cour suprême dans la vie nationale et le profil des candidats que chacun des deux candidats à la présidentielle nommerait à cette instance judiciaire. Les deux candidats ont réitéré les positions traditionnelles, démocrates et républicaines, sur cette question avant d'aborder un sujet vivement controversé, à savoir l'immigration. Donald Trump a attaqué la position de son adversaire.
We have no country if we have no border. Hillary wants to give amnesty. She wants to have open borders.
Nous n'avons pas de pays si nous n'avons pas de frontières. Hillary veut accorder l'amnistie. Elle veut avoir des frontières ouvertes. Comme vous le savez, plus de 16 500 gardes frontières ont endossé ma candidature la semaine dernière, la première fois qu'ils le font pour un candidat. Hillary Clinton a affirmé qu'elle proposera un plan global et réaliste de réforme de l'immigration.
I don't want to rip families apart. I don't want to be sending parents away from children.
Je ne veux pas déchirer les familles. Je ne veux pas envoyer les parents loin de leurs enfants. Je ne veux pas voir à l'œuvre la force d'expulsion dont Donald Trump a parlé, a-t-elle dit. Nous avons 11 millions de sans-papiers qui ont 4 millions d'enfants citoyens américains, a souligné Mme Hillary Clinton. L'économie domestique a fait l'objet d'un échange entre les deux candidats, la candidate démocrate Hillary Clinton.
My plan is based on growing the economy, giving middle-class families many more opportunities.
Mon plan est basé sur la croissance de l'économie pour donner plus d'opportunités aux familles de la classe moyenne. Je veux que nous ayons le plus important programme de création d'emplois depuis la Seconde Guerre mondiale, les emplois dans les infrastructures et la manufacture de pointe, a expliqué Mme Hillary Clinton. Pour Donald Trump, il faut revoir les relations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires.
My plan, we're going to renegotiate trade deals. We're going to have a lot of free trade. We're going to have free trade, more free trade than we have right now. But we have horrible deals.
Sous mon plan, nous allons renégocier les accords commerciaux. Nous aurons beaucoup de libre-échange, plus que nous en avons maintenant, mais nous avons d'horribles accords, a dit le candidat républicain, affirmant que les emplois américains ont été importés par les accords signés par l'époux de Mme Clinton, à savoir le président Bill Clinton. La politique fiscale, la situation en Irak et en Syrie, le rôle de la Russie sont d'autres sujets, qui ont fait l'objet des discussions lors de ce dernier débat entre les deux candidats à la présidentielle Idrissa.
Merci Timothée. Nous reviendrons sur les réactions et analyses dans la seconde partie de cette édition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité au Niger, formation d'un nouveau gouvernement avec l'annonce d'une équipe de 42 ministres hier à la télévision nationale. Cette équipe est dirigée par le premier ministre Brigui Raffini, reconduit dans ses fonctions par le président Issoufou Mahamadou. Elle compte aussi, cette équipe, en son sein, des militants du MNSD Nassara, arrivé troisième à la dernière présidentielle et qui a récemment regagné le camp de la majorité. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Attendu depuis l'annonce du ralliement du MNSD Nasara, parti de l'opposition à la mouvance présidentielle, le nouveau gouvernement qui vient d'être formé va certainement faire beaucoup de dessus dans l'opinion nationale. Beaucoup s'attendaient en effet à une réduction de ses membres, 43 au total, il reste intact. Autre attente dessus, c'est l'entrée de nouveaux cadres du parti présidentiel dans le gouvernement, les actuels étant là pour la plupart depuis le premier mandat. Le nouvel allié a été satisfait avec 6 portefeuilles, dont le principal est celui de la santé, dirigé par un professionnel du secteur. Le secrétaire général du parti de Tanja Mamadou, artisan principal de ce ralliement, se voit attribuer le département des enseignements professionnels et techniques. Le MPR Jamhouria de Albadé Abouba, qui était la deuxième force de la majorité, se retrouve avec 5 départements ministériels au lieu des 8 qu'il avait dans la précédente équipe. Pour le reste, le parti du président Issoufou conserve sa dizaine de portefeuilles, dont tous les ministères régaliens, avec cependant un changement de département pour Hassoumi Massaoudou, qui quitte la défense nationale pour les finances. Brigitte Raffini reste premier ministre et Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le médecin colonel Mamadou Bamba a été remis en liberté provisoire, a-t-on appris hier de sources judiciaires à Ouagadougou. Pour rappel, c'est lui qui avait annoncé à la télévision, le 17 septembre 2015, un putsch qui avait ensuite échoué. L'officier qui n'appartenait pas au régiment putschiste du RSP, ancienne garde prétorienne du président Compaoré, avait été incarcéré en octobre 2015, en même temps que le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a reçu hier les 21 lycéennes de Chibok libérées la semaine d'avant par Boko Haram. Il a promis de tout faire pour que soient relâchées les autres prisonnières du groupe djihadiste.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a estimé hier que l'opération Sangaris en Centrafrique a été un succès et qu'il faut passer le relais à l'ONU, même si la stabilité n'est pas totalement revenue dans ce pays. Les précisions de John Lyndon.
Nous fermons une opération parce que cette opération a été un succès, a déclaré devant l'Assemblée nationale M. Jean-Yves Le Drian, qui doit la clore officiellement le 31 octobre à Bangui. Nous avons évité des massacres de masse, permis un processus de réconciliation, la reconstitution de l'État centrafricain, une élection présidentielle et des élections législatives, a-t-il déclaré lors d'un débat sur les opérations extérieures de la France. La RCA peine à se relever du chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par le renversement du président François Bozizé par des rebelles Séléka, majoritairement musulmans. Cela avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. Des groupes armés sont toujours actifs dans le pays, environ 350 militaires français équipés de drones d'observation resteront présents à RCA, dont une centaine pour appuyer la MINUSCA.
Au premier jour de la visite du roi Mohamed VI à Kigali, le chef ou la chef de la diplomatie rwandaise assure que le moment est venu pour le Maroc de réintégrer l'Union africaine. Le roi Mohamed VI a rencontré hier le président Paul Kagame à Kigali. Ils ont signé 19 accords bilatéraux, notamment dans le secteur économique. Le souverain chérifien doit se rendre en Tanzanie et en Éthiopie, mais son programme exact n'a pas été révélé. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a déclaré que le moment est venu pour le Maroc de rejoindre ses frères et sœurs.
Les forces irakiennes s'apprêtent à lancer ce jeudi plusieurs assauts autour de Mossoul, le dernier bastion du groupe État islamique en Irak, que des chefs djihadistes ont déjà quitté selon un général américain. Depuis lundi, les forces fédérales et kurdes irakiennes ont fait de rapides progrès, se rapprochant depuis plusieurs directions de la ville, la deuxième ville d'Irak, et elles sont appuyées par la coalition internationale dirigée par Washington qui, outre son aviation, à des militaires sur le terrain pour les conseiller.
Syrie, le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à prolonger autant que possible la trêve humanitaire qui doit démarrer jeudi à Alep. M. Poutine l'a dit après des entretiens musclés à Berlin avec les dirigeants français et allemands qui n'ont pas exclu des sanctions suite aux bombardements qui ont ravagé la ville.
Au Yémen, la trêve négociée par l'ONU est entrée en vigueur hier mercredi, une minute avant minuit, au terme d'une journée marquée par de violents combats près de la frontière saoudienne et des raids aériens visant les bases militaires dans la capitale Sanaa.
La Corée du Nord a mené hier ou aujourd'hui ce qui semble être un nouveau tir raté d'un puissant missile de portée intermédiaire susceptible de toucher des bases américaines jusque sur l'île de Guam dans le Pacifique Nord, a annoncé l'armée sud-coréenne. La Minute Écho, Nathalie Barge.
Le groupe pharmaceutique allemand Merck a ouvert une filiale à Abidjan, la première en Afrique francophone. Ce bureau va promouvoir des traitements contre le diabète et l'hypertension, entre autres services. RDC, la Banque centrale du Congo, a relevé ses coefficients de la réserve obligatoire. Ils passent de 10 à 13% et de 9 à 12% pour les dépôts en devises à vue et à terme. En septembre, la banque avait déjà relevé son taux directeur de 2 à 7% pour tenter de neutraliser la liquidité excédentaire sur le marché de change. Emirates Airlines et Kenya Airways vont suspendre leurs opérations sur l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja. La première explique son retrait par les restrictions sur le marché de change nigérian et la seconde avance des difficultés qui l'obligent à réduire la voilure sur certaines destinations.
À présent, les sports avec Nanit Talani. Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, le tableau des différents groupes est connu.
Les groupes de la phase finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations 2017, qui se disputera du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon, sont connus après le tirage au sort effectué hier à Libreville. Le groupe A, qui jouera au stade de l'Amitié à Libreville, comprend le Gabon pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, qui sera l'hôte du stade de Franceville, on retrouve l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Le groupe C, qui accueillera le stade de Yem, compte la Côte d'Ivoire, la RDC, le Maroc et le Togo. Enfin, le groupe D, qui disputera ses matchs au stade de Port-Gentil, est composé du Ghana, du Mali, de l'Égypte et de l'Ouganda. Le Gabon affrontera la Guinée-Bissau pour le match d'ouverture. La phase de poule se déroule du 14 au 25 janvier. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale prévus les 28 et 29 janvier. Les demi-finales, elles, sont programmées le 1er et le 2 février. Le match pour la troisième place le 14 février et la finale le 5 février.
Dopage, 5 pays menacés par l'Agence mondiale antidopage de non-conformité.
L'Agence mondiale antidopage a annoncé hier que 5 pays, dont le Brésil, organisateur des derniers Jeux olympiques d'été, pourraient être déclarés non conformes au Code mondial antidopage le mois prochain. Lors de sa réunion, le Comité indépendant de contrôle de la conformité de l'AMA s'est penché sur les cas des agences nationales antidopage de l'Azerbaïdjan, du Brésil, de la Grèce, du Guatemala et de l'Indonésie. Il a conclu qu'elle n'était pas actuellement en conformité avec le code 2015. Il y a 11 mois, le Brésil avait été placé, comme 5 autres pays, dont la France, sous surveillance lors du conseil de fondation de l'AMA.
L'Italien Marcello Lippi devrait devenir sélectionneur de la Chine.
L'Italien Marcello Lippi, champion du monde en 2006, devrait être nommé sélectionneur de la Chine en remplacement de Gao Hongbo, qui a démissionné la semaine dernière, a assuré hier le quotidien sportif italien Corriere dello Sport. Dans les prochains jours, l'ancien sélectionneur italien partira à Pékin pour étudier les détails de l'offre. Le mois dernier, Lippi avait signé un contrat qualifié de pharaonique par la presse italienne pour revenir entraîner à partir de janvier le club de Guangzhou qu'il a déjà dirigé de 2012 à 2014.
Le japonais Morinari Watanabe, élu président de la Fédération internationale de gymnastique.
Le japonais Morinari Watanabe, âgé de 57 ans, a été élu hier président de la Fédération internationale de gymnastique en battant son rival français Georges Gelzec, qui dirige l'Union européenne de gymnastique, a annoncé un porte-parole de l'institution. ancien gymnaste lui-même, Watanabe succède à l'Italien Bruno Grandi à l'issue de ce vote qui s'est tenu à Tokyo, ville hôte des prochains Jeux olympiques en 2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia et Timothée Donangmaï. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme promis, les réactions au troisième et dernier débat entre les candidats démocrates et républicains à la présidentielle américaine du 8 novembre, Hillary Clinton et Donald Trump. Nous commençons avec le professeur Souleymane Béchir Diagne de Columbia University, que j'ai joint hier soir à New York, dès la fin du débat.
Mon impression générale, c'est qu'Hillary Clinton a parfaitement probablement joué la partition qu'elle devait jouer étant donné les conditions, c'est-à-dire qu'elle a maintenu, à mon avis, l'avance qui est la sienne. Elle s'est exprimée avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas eu, par rapport aux autres débats, d'éléments véritablement nouveaux, sauf peut-être un qui semble être crucial, c'est que le candidat Trump est revenu sur cette idée que les élections étaient faussées, que si elle penchait du côté d'Hillary Clinton, que c'était des élections faussées. Et c'est une déclaration relativement grave. Je crois que ça va faire l'objet des discussions dans les jours à venir, parce que la démocratie, fondamentalement, repose sur un élément de confiance dans le système électoral, confiance dans les résultats qui vont sortir de ce système. Et dès lors que l'on n'a pas cette confiance-là, on atteint très profondément le principe démocratique lui-même.
Mais on lui a posé spécifiquement la question, est-ce que vous allez accepter les résultats, quels qu'ils soient? Et il a dit, je vais entretenir le suspense à ce niveau.
Ça, c'était incroyable. C'est quelque chose qui a, à mon avis, qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive dans les jours qui vont venir. Une réponse comme celle-là, ça, elle mine effectivement le principe démocratique lui-même.
Et quelle a été la réponse de Hillary Clinton?
Ben justement, elle a montré à quel point elle était complètement abasourdie d'entendre une réponse pareille. Elle a rappelé que pendant les 200 et quelques années que la démocratie américaine a existé, celle-ci a toujours reposé sur un principe, sur le principe démocratique qui veut que, quelle que soit l'âpreté du débat que l'on mène, celui qui a perdu reconnaisse sa défaite. Et c'est le principe démocratique marche sur ça, cela, sur ce principe-là, le principe de la confiance dans le déroulement des élections, dans la manière dont la démocratie choisit celui ou celle qui doit la conduire. Et donc ce principe, une fois qu'il est atteint, on ne voit plus trop sur quoi reposera l'édifice démocratique.
Professeur, pour conclure, on ne voit pas du tout ce débat changer la donne actuellement. Hillary Clinton mène dans les sondages, Donald Trump est à la traîne et ça ne va pas changer.
Ça ne va pas changer. Il aurait fallu quelque chose d'absolument extraordinaire pendant ce débat-là pour qu'il renverse les choses. Je crois que la tendance qui était une tendance au creusement de l'écart avec Hillary Clinton devrait se maintenir.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de Columbia University. Tim?
Autre réaction, celle de Serge Banyongen, professeur de relations internationales à l'Université d'Ottawa.
Je pense que M. Trump est resté égal à lui-même et il a une démarche qui est classique, qui en fait, si vous regardez, le prolongement de cette vague qui a vu l'arrivée de la droite américaine, des groupuscules un peu anti-système, comme le Tea Party. C'est-à-dire que cette démarche qui se présente comme quelqu'un qui n'a pas été là aux affaires depuis 30 ans, comme Mme Clinton.
Est-ce que c'est une approche qui permet à M. Trump d'élargir sa base afin de gagner en novembre?
Il y a beaucoup de gens qui sont déçus de la politique telle qu'elle se fait, ou telle qu'ils croient qu'elle se fait. Et ces gens se recrutent à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite. C'est un discours qui a beaucoup de limites et le fait est que M. Trump prenne beaucoup de casseroles. C'est vrai que les gens sont en recherche d'un candidat qui serait iconoclaste, qui sortirait vraiment du système politique. Sauf que ce candidat, le candidat Trump, plonge trop dans une sorte de comédie de la politique pour que il soit plutôt sérieux.
Madame Clinton venait à ce débat après la publication par WikiLeaks d'emails piratés du compte du président de sa campagne, des emails embarrassants pour elle. Comment s'en est-elle tirée?
Elle est restée égale à elle-même. Cette façon de vouloir adopter une posture d'abord qui soit présidentielle, dans la logique justement des scandales, les scandales de M. Trump sont largement supérieurs à celles de Mme Clinton. Donc, elle s'en est bien tirée du temps, puisque ce segment n'a pas autant duré. Ça n'a pas duré suffisamment longtemps pour le nuire.
Serge Bayongen, professeur de relations internationales à l'Université d'Ottawa.
Timothée, vous avez rencontré une des 15 personnes issues de l'immigration, originaires de divers pays, qui ont pris part à une discussion ici à la Voix de l'Amérique après le troisième débat. Vous avez parlé à Angèle Kouemo, qui est originaire du Cameroun et directrice pour l'Afrique du Washington Media Group.
Il y a un jeune homme du Moyen-Orient qui a dit que la politique d'Hillary, le projet qu'elle proposait n'était pas acceptable. Il a reconnu, il était d'accord avec Donald Trump en disant que la politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient était une erreur. Mais ce que je lui ai demandé après, c'était de savoir, ok, d'accord, on est tous d'accord qu'on a un problème au Moyen-Orient, mais on a un projet, on a un plan, celui d'Hillary, on n'a pas de plan de la part de Donald Trump.
Le candidat Donald Trump a aussi fait savoir qu'il attend de voir les résultats de la présidentielle avant de se prononcer sur leur validité. Comment est-ce que cette position a été interprétée?
Ah oui, là j'ai rigolé. Parce que sur cette question-là, j'ai fait un petit commentaire en disant que nous, les immigrés, on vient ici avec, on a un idéal de démocratie. On vient ici parce qu'on s'imagine que c'est un système qui est parfait. Mais l'élection de cette année nous montre bien les limites de démocratie parce qu'on ne sait pas trop quels en seront les résultats. On n'arrive pas vraiment à comprendre quels sont les plans, les projets que les candidats nous présentent. Et en plus de ça, il y en a un qui a plein de casseroles dans son passé, qui n'est pas articulé, qui insulte tout le monde. Mais le personnage de Donald Trump est plus ou moins intéressant. Je ne dirais pas qu'il a des chances de remporter les élections, mais il est bien parti pour rendre la victoire d'Hillary plus ou moins difficile.
Vous étiez un groupe de personnes issues de l'immigration. Comment avez-vous vu les positions des deux candidats concernant l'immigration?
Par rapport à l'immigration aussi, j'étais aussi plus ou moins surprise de voir que quelques-uns parmi nous étaient d'accord avec Donald Trump. Mais je leur ai dit que c'est vrai qu'il faut, bâtir le mur. C'est vrai que tout pays a besoin de protéger sa territorialité, sa souveraineté. Mais faire un plan d'immigration sur la base d'une petite minorité de criminels, à mon sens, n'est pas très intelligent. Mais en général, je pense qu'on est, ils sont tous d'accord avec le plan que Hillary a présenté sur une approche globale d'immigration avec la protection des frontières, l'application des textes de loi, créer une avenue de légalisation pour les immigrés qui sont là, sur la base de ce que il faut protéger les familles, comme elle a bien articulé, il faut protéger les familles, protéger les enfants, protéger les cohésions sociales. Bien entendu, elle a aussi relevé l'apport économique des immigrés ici, en concluant d'une façon plus ou moins ironique que des illégaux ici aux États-Unis payent plus d'impôts que les milliardaires comme Donald Trump.
Angèle Kouemo, directrice pour l'Afrique du Washington Media Group, donc ici à Washington.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la présidentielle américaine au lendemain de l'ultime duel télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump avant le scrutin du 8 novembre. Un débat crucial à l'heure où les scandales continuent d'ébranler les deux rivaux. L'un est accusé d'agression sexuelle et l'autre toujours hanté par l'affaire des emails. Cette avalanche de scandales est-elle en train de reléguer au second plan les vrais enjeux de l'élection? La campagne répond-elle aux préoccupations des Américains mais aussi du reste du monde? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Tchad, des députés ont déposé hier une motion de censure contre le gouvernement. Ils s'opposent aux mesures prises pour gérer la crise sociale et économique. Le gouvernement veut geler les primes et indemnités de recherche des enseignants pour 18 mois, supprimer les bourses d'études et réduire les indemnités des parlementaires. Idriss Fall a joint N'Djamena Matoyngé-Benelgar, député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, qui a introduit la motion de censure.
Nous avons une disposition légale qui nous permet de se poser cette question et nous conférons le droit d'interpeller le gouvernement pour une motion de censure. Il y a une réelle question que nous avons adressée Premier ministre, sur les mesures prises par son gouvernement pour gérer la crise sociale et économique, qui se sont avérées catastrophiques au point de remettre en cause la paix sociale et la stabilité du pays, avec ses effets collatéraux et le système éducatif qui est dans un état de délabrement avancé. La question de l'administration publique qui a cessé de fonctionner, la question de construction des infrastructures avec des moyens colossaux et que nous ne savons pas quelle était la portée exacte. Et les retombées pétrolières depuis l'exploitation pétrolière en 2003 et que le Tchadien lambda ne sait pas exactement quel était le chiffre exact que le trésor public a engrangé.
Est-ce que cette motion a des chances de passer à l'Assemblée?
Nous savons que l'opposition, dont nous sommes membres, a un nombre un peu infime, mais une question d'intérêt national, je crois qu'à un moment donné, on devrait au moins se transcender des réalités politiques pour appréhender le devenir de la destinée de cette nation. Donc, il y a une majorité, bien sûr, mais c'est une question qui ne m'initiait pas seulement à l'opposition, mais que tu sois de la majorité ou de l'opposition, nous devrons poser certaines questions à ce gouvernement. Nous avons d'abord, dans une diplomatie parlementaire, essayé simplement d'interpeller le gouvernement pour échanger, puisqu'il n'y a pas d'issue. Et nous avons déposé la motion de censure qui devrait être transmise au gouvernement. Il doit répondre rapidement dans un délai, n'excédant pas 3 jours. C'est des moyens que la Constitution nous a permis en tant que parlementaires de contrôler l'action du gouvernement. Ce n'est pas une volonté affichée pour renverser le gouvernement, mais que le gouvernement s'explique. Mais s'il n'arrive pas à s'expliquer et nous donner des arguments convaincants, je crois que les parlementaires que nous sommes seront obligés de voir dans quelle mesure d'amener le gouvernement dans la raison et à la raison.
Matoinge Benelgar, député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale ne va pas, selon l'ONU, interrompre le travail que la procureure a déjà entamé sur les crimes commis depuis avril 2015. Mardi, le président Pierre Nkurunziza a promulgué la loi qui prévoit le retrait de son pays de la CPI. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint le Conseil spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide, Adama Dieng.
Il n'y a pas de levier, c'est un État souverain. Donc, comme tout État qui adhère à un traité, il y a la possibilité aussi de se retirer. Et il faut tout simplement, à mon avis, penser à toutes ces victimes, de quelque bord qu'ils soient. Je pense, par exemple, à certains officiers de l'armée burundaise qui ont été tués par des groupes armés. Et ces crimes doivent être enquêtés. De même qu'aussi les crimes commis par des forces de sécurité burundaises doivent être enquêtés. Et je crois qu'il faut aujourd'hui essayer vraiment de savoir raison garder et surtout essayer de comprendre que le souci de la communauté internationale est tout simplement d'apporter son appui au gouvernement burundais afin qu'il puisse assumer pleinement sa responsabilité de protéger ses populations.
La procureure de la Cour pénale internationale avait ouvert un examen préliminaire sur le Burundi. Est-ce dire que tout tombe à l'eau?
Non, absolument pas, parce que les effets de ce retrait ne sont pas rétroactifs. C'est dire donc que tous les crimes qui ont été commis pendant cette période, jusqu'à un an après la notification auprès du secrétaire général, feront l'objet de cette enquête. Et bien entendu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas État partie à la CPI que les individus auteurs de crimes ne seront pas poursuivis. Il y a eu des précédents, tels que le Soudan, qui n'était pas parti et dont certains de ses responsables se sont retrouvés mis en accusation devant la CPI. Et cela dit, il faut préciser que lorsque nous parlons de crimes contre l'humanité, cela concerne tout le monde. Et je me souviens d'ailleurs le cas de Pinochet que j'évoque très souvent. Il a mis 20 ans avant d'être rattrapé par la justice. J'ai eu également le cas de l'ancien président du Guatemala, Ríos Montt. Il a fallu aussi longtemps avant qu'il soit rattrapé par la justice, mais la justice nationale guatémaltèque.
C'est-à-dire que l'acte de Bujumbura est un non-événement.
Je dirais que ça ne change pas la donne en ce qui concerne les poursuites éventuelles. Et c'est pourquoi il me semble important que tout soit mis en œuvre pour que le Burundi puisse coopérer délai afin que les auteurs des crimes commis puissent être poursuivis devant les juridictions compétentes.
Adama Dieng, conseiller spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Alberson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia et Timothée Donangmaï à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.